Le journal Belinda Bosuma.
Une cinquantaine de personnes, dont trois enfants, ont été tuées par les rebelles du M23 dans une église de Rutshuru au Nord Kivu, ce alors qu'elles y avaient trouvé refuge. Un notable qui le rapporte condamne ce qu'il qualifie de crime commis par le M23 contre la population, vous l'entendrez. Lubumbashi, présentation hier au gouverneur du Haut-Katanga de 5 taximen moto présumés auteurs du meurtre d'un pasteur le dimanche dernier au quartier Kabulameshi. Ce leader religieux aurait été tué après échange de paroles avec l'un des taximen moto qui l'a transporté. Ce dernier accusait la victime de vouloir lui ravir la moto. Et puis, l'invitée de ce midi, Nelly Kieya, coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes, elle fait partie du groupe des femmes du Nord Kivu qui ont quitté Goma pour Nairobi par route et avec leurs propres moyens, avec comme objectif de faire entendre leur voix au pourparlers de Nairobi, car fatiguée de la crise qui secoue l'est de la RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Parmi les victimes du massacre perpétré par les rebelles du M23 à Kishishe, une cinquantaine de personnes, dont trois enfants, ont été dans une église de la place alors qu'elles y avaient trouvé refuge. C'est ce qu'affirme un notable de la place que nous avons joint au téléphone ce matin. Ce leader local condamne ce qu'il qualifie de crime commis par le M23 contre la population que ces rebelles ont accusé d'être des Mai Mai Nyatura. Suivez le témoignage de ce notable qui avec qui l'anonymat.
À Kishishe, on a tué plus de 122 civils. Et qui les ont tués, ce sont les M23 qui sèment la terreur dans la région. Dans l'église adventiste au niveau de la petite agglomération de Kishishe, à Kilama, 64 personnes avaient trouvé refuge dans cette église, alors ils ont été tous tués, dont trois enfants. Alors, on a tué seulement les hommes, bon, on a laissé les femmes, bon, pour aussi s'évader. Voilà ce qui se passe là-bas, bon, sont indexés d'être des Maïmaï, d'être des Nyatura, d'être des FDLR. Pendant que c'est une population que je connais très bien moi-même, nous sommes nés dans le groupement des Bambou, on connaît très bien le comportement de la population de ce groupement. En tout cas, c'était l'agglomération sûre vraiment en matière de la sécurité. Mais ce qui m'a appris, c'est de dire que la population de là est devenue une population Mai Mai Nyatura. Voilà en tout cas ce qui nous énerve, pendant que c'est une population qui est pacifique et qui est vraiment hospitalière.
Restons dans le Rutshuru pour signaler qu'un calme précaire est observé ce vendredi dans la région de Kishishe, Kirima et Lushebere, groupement de Bambo, chefferie de Bwito. Des affrontements et tueries des civils ont été enregistrés mercredi et hier jeudi dans ces localités, ce qui a occasionné un déplacement massif de la population de Kibirizi vers Kanyabayonga dans le Grand Nord. Pendant ce temps, les sources concordantes affirment que les FARDC contrôlent toujours les localités de Kachalira, Kirima, Kibirizi et le rond-point Windy, où ils ont réussi à stopper l'avancée des M23. D'autres détails avec vous, Pele Kipela Mondo, bonjour.
Bonjour Belinda, d'après les sources locales, la situation reste tendue dans cette partie du groupement Bambo. 90% de la population qui avait trouvé refuge à Kibirizi ainsi que les autochtones sont partis depuis hier et ce matin. Elles se dirigent vers Kanyabayonga, à 80 km de Kibirizi. La plupart à pied avec femmes et enfants à cause de l'absence de véhicules ou motos, expliquent nos sources. La population craint d'être victime d'un éventuel massacre comme ce qui s'est passé à Kishishe. Toutes les activités sont paralysées dans cette région alors que Kibirizi constitue une plaque tournante d'approvisionnement en produits vivriers vers Goma et produits manufacturés vers les localités environnantes. Jusqu'ici, les FARDC ont réussi à bloquer les rebelles qui cherchent à tout prix à couper l'axe Rwindi, Kibirizi et Nyanzale, ce qui rassure encore quelques leaders locaux restés à Kibirizi pour observer la situation.
Merci Pélé. Rendons-nous à Bounia. Quatre membres d'une même famille ont été tués à l'arme blanche par des inconnus à Kolomani dans le quartier Mudzipela. Selon des sources concordantes, il n'y a jusque-là aucune précision sur l'identité des auteurs ni le mobile de ce crime qui a suscité la colère de certains habitants. Les responsables de la police et de la société civile exhortent la population au calme, notamment, et préserver les acquis de la cohésion sociale entre les différentes ethnies. Le point avec Jean-Claude Lecky.
Les quatre victimes sont une dame de 70 ans, un homme de 54 ans, sa femme de 45 ans et leur enfant de 22 ans. Ils ont été tous tués à la hache, selon certains, à l'aide d'une barre de fer, selon d'autres. Leurs corps ont été retrouvés tôt ce matin à environ 20 mètres de leur habitation. Un meurtre qui s'est déroulé dans l'anonymat. Même les voisins n'en ont rien su, explique le chef du quartier Moudi Pella. À ce stade, nous ne disposons pas d'assez d'informations sur les circonstances de ce drame, a déclaré de son côté le commandant ville de la police à Bounia. Le major Abeli Mwango précise que des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les auteurs de ce forfait. Depuis la matinée de ce vendredi, des images horribles de cet assassinat circulent dans les réseaux sociaux, ce qui suscite un sentiment de colère ou de vengeance chez certains habitants qui attribuent cette tuerie à un règlement de compte. Le coordinateur intérimaire de la société civile de l'Ituri demande à la population de laisser les services de sécurité faire leur travail. Recourir à la vengeance à cause de l'appartenance ethnique des victimes risque de casser l'élan de cohésion sociale qui se remet petit à petit. Affirmé Jean-Marie Ezadri, Bounia, Jean-Claude Lucky, Dilet, Radio Capi.
Direction le Kenya. Démarrage à Nairobi des travaux en groupe des différentes délégations du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika qui participent au troisième round du processus pour la paix dans l'Est de l'RDC. Une feuille de route par territoire et province est attendue à l'issue de ces travaux. Le processus de Nairobi est piloté par le secrétariat exécutif de l'EAC avec le soutien opérationnel des Nations Unies. Radio Kapi décrypte pour vous la méthode du facilitateur Uhuru Kenyatta, une méthode consultative, humaine et adaptative. Martial Papi Mukeba, vous êtes en direct de Nairobi. Faites-vous le même constat sur place?
Exactement, Belinda. Contrairement aux méthodes linéaires et mécaniques, Uhuru Kenyatta préfère la méthode adaptative, une méthode qui consiste à écouter et à s'adapter à la position de ses interlocuteurs. Pour illustrer, il y a 2 jours, il recevait les groupes armés sous une tente au Safari Park Hôtel de Nairobi. L'ancien président Kenya a écouté assidûment, sans interrompre ses interlocuteurs. Il a surtout mis les participants en confiance et à la fin de la séance, Uhuru Kenyatta a demandé à l'un d'eux de donner une prière pour obtenir les résultats concrets à la fin du processus. Une méthode qui marche et qui à chaque fois résulte par des salves d'applaudissements.
Dites-nous, Martial, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Kenya est au cœur de la plupart des pourparlers de paix en Afrique?
Pour la petite histoire, le Kenya a piloté le processus de paix qui regroupait les différentes factions en conflit en Éthiopie, au Soudan, en Somalie et au Soudan du Sud. C'est dire que le Kenya a une grande expérience aujourd'hui dans l'accompagnement des pays africains pour la résolution des conflits. Il existe aussi à ce jour, au sein du ministère Kenya des Affaires étrangères, tout un département chargé de la résolution des conflits en Afrique et qui dispose des moyens importants de sa politique. Autant dire que le Kenya est un pays qui veut accompagner d'autres pays africains.
Merci Martial Papi Mukeba. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Nairobi, la capitale kényane. Nous sommes à présent à Lubumbashi. Je vous l'ai dit dans les titres, les services de sécurité ont présenté hier au gouverneur du Haut-Katanga 5 taximen moto présumés auteurs du meurtre d'un pasteur le dimanche dernier au quartier Kabula Meshi. D'après plusieurs personnes, ce leader religieux a été tué par les taximen moto après des discussions avec l'un d'eux qui l'a transporté et qui l'accusait de vouloir lui ravir la moto. Jacques Kiabula, qui a fustigé ce comportement, a demandé à la justice de faire son travail pour que les coupables répondent de leurs actes. Jean Gandou, reportage.
Après le meurtre du pasteur Jérémy Doxalengue, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, et surtout de l'indignation qui a suivi dans l'opinion, les services de sécurité ont mis la main sur les présumés auteurs de ce drame qui sont les taximen moto. Tous ont été présentés à l'autorité provinciale. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, les motocyclistes ne sont pas au-dessus de la loi.
Nous avions constaté avec regret que ces derniers temps, il y a des comportements déviationnistes des motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurer. L'État doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les motards ne peuvent pas être au-dessus de la loi.
Jacques Kiabula a ainsi demandé à la justice de faire son travail pour que chacun d'entre ces présumés meurtriers réponde de ses actes. Pour le président de l'Association nationale des motocyclistes du Congo, il est inadmissible pour qui que ce soit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Ainsi, Henri Mboui condamne ce drame et appelle les motocyclistes à plus de conscience et au respect des autorités établies.
Des actes de barbarie, des motards qui parviennent même à ôter la vie d'une personne. Ce sont des situations que nous condamnons tous. Nous allons appeler tous les motards du Haut-Katang à un changement de mentalité. Quand il y a un problème, vous êtes mené la personne auprès des services de l'État. C'est faire justice, tuer, brûler. Non, ça nous condamnons.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Parlant de la justice, affaire assassinat de l'opérateur économique Simba Nguesayo à Goma. Nouveau renvoi du procès au mardi prochain devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe à la prison militaire de Ndolo. Un procès dans lequel comparaissent plus d'une centaine de prévenus dont les familles n'ont sans cesse réclamé la délocalisation vers Goma, ville où Nguesayo a été assassiné. La dernière audience a eu lieu la semaine passée. Le tribunal poursuit les auditions des prévenus et l'instruction du fond de plusieurs infractions. Le rappel des faits avec vous, Jeff Ngoy Mulunda.
138 personnes sont prévenues dans cette affaire, notamment d'assassinat, meurtre, association de malfaiteurs et détention d'armes. C'est depuis plus d'une année qu'elles prolongent leur détention préventive en prison, ce que la société civile du Nord Kivu a toujours dénoncé. Elle veut s'assurer que leurs droits sont bien respectés. C'est dans cette optique qu'elle avait organisé le 1er mai 2022 une séance de travail avec des enfants de ces détenus à Goma pour un réconfort. Bien avant, le 23 mars, un sit-in était organisé à l'auditorat général des FRDC pour exiger la délocalisation vers le lieu de l'homicide. Mais ce vœu de voir le procès se tenir à Goma n'avait jamais été exaucé par le tribunal. Et pour le moment, les parties civiles Nguesayo se chargent du transport de plusieurs témoins de Goma à Kinshasa et le procès suit son cours normal malgré le break de cette semaine. L'opérateur économique avait été tué le 3 novembre 2020 par balle dans une rue du centre-ville de Goma alors qu'il accompagnait son enfant à l'école.
Nous sommes au sud Kivu à présent. Une dizaine de morts, des milliers de maisons emportées et des écoles détruites. Bilan des éboulements de terre dus aux pluies de ces deux derniers jours dans le territoire de Calais. Plusieurs autres infrastructures sont complètement détruites dans cette partie du sud Kivu. La société civile du territoire de Calais lance un cri de détresse en vue d'une assistance. Emmanuel Elameji Wakabedi, reportage.
C'est une énième pluie torrentielle qui s'est abattue à la fin du mois de novembre dernier à Kaloba, village de Mourambi, groupement de Bouzi, en territoire de Calais. Le bilan provisoire fait état de plus de 10 morts, plus de 2000 maisons d'habitation emportées, environ 7 établissements scolaires détruits et bien d'autres dégâts. Les témoins affirment que, jusqu'à jeudi 1er décembre, au total 12 corps inertes, dont des enfants et des femmes, ont été retirés des décombres alors que les recherches se poursuivent. Le territoire de Calais est donc désormais totalement enclavé. Les principales routes sont coupées, les ponts sont effondrés. La société civile de Calais poursuit avec son plaidoyer aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés. La population de Calais demande l'asphaltage de la route RN2 Bukavu-Goma, de la route RN3 Miti-Ombo ainsi que l'assistance aux différentes familles des victimes. Mais surtout, une intervention en faveur des élèves qui doivent fréquenter l'école. Emmanuel Elameji Wakabiti, Bukavu Radio Kapi.
Province de la Tchopo, environ 10 blessés ont été enregistrés hier lors de l'intervention de la police nationale congolaise au campus central de l'université de Kisangani. Cette intervention avait pour objectif le rétablissement de l'ordre public à la suite des manifestations des étudiants de l'UNIKIS. Ces derniers réclamaient le réaménagement du calendrier académique de l'année en cours avant la passation des examens puisque selon eux, certains cours n'étaient pas encore achevés. Jacques Moukonkole, reportage.
Ces manifestations se sont déroulées pendant deux jours, soit mercredi et jeudi. Les étudiants protestaient contre la date du 5 décembre, fixée pour le début des examens de la première session de l'année en cours, puisque selon eux, certains cours n'étaient pas encore achevés. Pendant leur manifestation d'hier, ils ont été surpris par des éléments de la police venus pour rétablir l'ordre au sein du campus. Des accrochages ont alors éclaté entre les forces de l'ordre et les étudiants. Dans cette circonstance, six étudiants ont été touchés. Quatre d'entre eux sont blessés par balles et sont admis aux soins de santé. Deux autres souffrent de traumatismes et sont également suivis médicalement. Du côté de la police, les services compétents avancent un bilan d'au moins 6 blessés légers suite au jet de pierres par des étudiants lâchés un cadre de la police. Signalons qu'après ces incidents, le comité de gestion s'est réuni avec les doyens des différentes facultés. Au terme de cette rencontre et après avis du ministère de tutelle, un nouveau calendrier des examens a été fixé. Les examens pourront alors débuter à partir du 19 décembre. Pour sa part, le représentant général des étudiants, Eric Yaoufa, appelle ses camarades au calme et aux autorités de prendre en charge les soins des étudiants blessés. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Congo central, 3 personnes sont mortes dans un accident survenu ce matin sur la nationale numéro 1 au niveau de la bifurcation de Luozi dans le territoire de Songololo. À cause de l'excès de vitesse, la moto qui transportait les victimes a fini sa course sous un camion remorque en partance pour Matadi. Le coordonnateur de la société civile qui livre l'information dit déplorer ce énième cas d'accident sur cette voie. Le vieux Mbiavanga estime que l'état de cette route, entretenue de manière permanente par la firme chinoise Grec 7, est à la base des drames à répétition sur la nationale numéro 1 puisque la chaussée est trop glissante. Il demande au gouvernement provincial de soumettre ses travaux à une autre expertise étrangère.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les législateurs ont échangé des coups et jeté une chaise au Parlement sénégalais hier en raison d'une insulte perçue à l'égard d'un influent chef religieux pro-opposition. La bagarre a éclaté lors d'un vote sur le budget du ministère de la Justice pour 2023. Un député de l'opposition a giflé la législatrice Amine Diaye pour ses remarques. Selon des images diffusées à la télévision et sur les médias sociaux, elle a répondu en lui lançant une chaise puis est tombée au sol où elle a été aidé par des membres de son groupe. Une bagarre a alors éclaté entre les députés avant que le président de séance n'ait suspendu la session.
L'invité.
Un groupe de femmes du Nord Kivu ont quitté la ville de Goma par route et avec leurs propres moyens pour se rendre à Nairobi au Kenya. Ces femmes disent s'être rendues à Nairobi pour faire entendre leur voix car elles sont fatiguées de la situation de crise dans la partie est de la RDC. L'une d'elles, qui est coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes, est l'invitée de ce journal. Nelly Kieya s'entretient avec Martial Papimukeba.
Madame Nelly Kieya, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pourquoi vous avez décidé, avec un autre groupe de femmes, de rejoindre Nairobi par vos propres moyens?
Nous avons pris les bus. Bien sûr, il y a eu certaines personnes qui ont été appuyées pour arriver là. Nous avons pris les bus pour être jusqu'ici. Ça n'a pas été facile. Plus de 24 heures sans dormir, sans se reposer, parce qu'on ne voulait pas non plus être en retard. Il y avait le programme qui changeait à tout moment, mais on s'est dit, on y va. Personnellement, j'ai un bébé de 7 mois que j'ai laissé parce qu'il ne pouvait pas supporter le froid. Nous sommes venus en tant que Rien sans les femmes avec toutes les collègues qui sont venues, qui se sont sacrifiées. C'est parce que le mouvement d'abord, lui en soi, il travaille sur la promotion de la participation de la femme dans le poste de prise de décision et particulièrement la résolution 1325 qui encourage cela. Elle encourage à ce que les femmes puissent contribuer dans les tables de discussion sur les questions de paix et sécurité. Donc nous sommes venus ici parce que nous sommes touchés. Nous sommes des femmes victimes et on voulait quand même contribuer pour une fois. Et en tant que membre de la communauté congolaise, membre de la communauté du Nord Kivu, membre de la communauté du Sud Kivu, parce qu'il y a des femmes qui sont ici, qui sont du Sud Kivu, elles sont de plusieurs provinces, du Maniema, elles sont venues avec nous parce que nous en avons marre de voir que la situation persiste et il y a des accords et des accords. Nous avons y analysé les accords à partir de l'accord de l'Emera jusqu'à tous les autres accords qui ont suivi. On ne comprend pas pourquoi il y a toujours des dialogues mais les choses ne changent pas.
Et qu'est-ce que les femmes du Nord Kivu pensent du processus de Nairobi?
Ce que je peux dire, la perception qui est aussi de mes collègues qui sont venus sans être invités peut-être, hein, le processus de Nairobi, c'est quelque chose à encourager parce que ça réunit tous les groupes armés en principe, bien qu'il y a ceux qui manquent, mais qui sont considérés comme des terroristes bien sûr. Et si nous sommes venus, c'est parce que nous avons cru dans ce processus qui est un processus qui peut nous amener à une paix durable. Mais c'est quand même important de savoir que d'y ressortir ici, et ce qui est notre message phare, c'est que ces jeunes qui sont ici, ces papas qui sont ici, qui font partie de groupes armés, le programme DDRC, ou même si on n'arrivait pas au programme DDRC, tous les autres programmes doivent être mis en place si on veut leur désarmement, doivent prendre en compte des mesures spécifiques qui vont les amener à être autonomes, non seulement à eux, mais aussi leurs dépendants, leurs épouses, leurs enfants. À un certain niveau, vous allez comprendre que si ces jeunes-là, leur condition de vie n'est pas améliorée, c'est insécuriser même nous-mêmes en tant que femmes, au fait. C'est insécuriser la communauté où ces personnes feront partie parce qu'ils ont leur mode de fonctionnement. Et donc, s'il y a des besoins qui ne sont pas pris en compte sérieusement, d'une façon vraiment qualitative, ça va causer problème. C'est insécuriser la communauté même.
Et vous, en tant que maman, quel message vous lancez aux jeunes en général et en particulier aux jeunes filles, souvent violées, déplacées, sans accès à l'éducation suite aux violences dans la partie est de la RDC?
Le message que je peux lancer à ce niveau-là, c'est un message de courage, parce que nous traversons des moments difficiles. Des fois, il est même difficile de savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Mais il faut beaucoup de courage. Il faut faire partie des survivantes et actrices de paix. Que cette situation que nous traversons puisse créer à nous une révolte qui va nous amener à ne plus être une porte d'entrée pour des conflits futurs.
Madame Nelly Keya, merci.
Merci beaucoup.
La coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes répondait aux questions de Martial Papimukeba, notre envoyé spécial à la capitale kényane. Voilà tout. Ce journal est terminé. Il a été coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma devant ce micro. Merci de votre attention.